Signe des temps. Marc Wetzmann.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Mi-mars dernier, au tout début du confinement dans Signe des temps, nous avons consacré une émission entière à la ville de Wuhan, la mégapole chinoise de 9 millions d'habitants d'où est partie la pandémie, peu connue du public et sur laquelle très peu d'informations circulaient à l'époque. 7 mois plus tard, alors que la transmission du Covid paraît connaître un rebond en France et en Espagne, voici que la romancière chinoise Fang Fang publie le blog qu'elle a tenu chaque jour dans cette ville de Wuhan pendant toute la durée de la fermeture de la ville, entre mars et avril. Journal intime, reportage, méditation sur les pouvoirs et l'impuissance de la littérature partant de crises inédites et de censure, Wuhan Ville Close, c'est le titre du livre, est un document littéraire impressionnant qui permet de réfléchir à la manière dont le virus affecte non seulement nos vies, mais le langage avec lequel nous en parlons et les circuits d'information du pouvoir. Au-delà du témoignage, ce livre pose aussi une question. À mi-chemin entre Orwell et Marx, la Chine post-Covid tente aujourd'hui d'imposer son modèle comme la solution alternative au XXIe siècle. Et ce livre, qui parle de la façon dont un pays comme la Chine gère la pandémie au détriment de ses citoyens, annonce-t-il l'avenir, ou bien peut-on y lire en filigrane l'échec programmé du régime chinois ? On va essayer de réfléchir à tout ça pendant ces 3 petits quarts d'heure avec Brigitte Duzan. Bonjour. Vous êtes chercheuse indépendante en littérature et en cinéma chinois et traductrice du chinois, fondatrice et animatrice de 2 sites web de référence, Chinese Movie sur le cinéma chinois et Chinese Short Story sur la littérature chinoise. Valérie Niquet, bonjour. Vous êtes responsable du pôle Asie à la Fondation pour la Recherche Stratégique, co-auteur avec le chercheur Walter Lohmann d'un récent article dans Le Monde intitulé « Le basculement du monde vers l'Asie n'aura pas lieu ». Vous êtes par ailleurs attaqué en diffamation par Huawei France, j'ai vu ça. Yinde Zhang, bonjour, est-ce que vous êtes là au téléphone ?
Oui, bonjour.
Vous êtes professeur des universités, spécialiste de la littérature chinoise, membre associé à Paris 3. Vous avez écrit beaucoup d'articles et de travaux divers sur la littérature chinoise. Et enfin, Sébastien Weg, bonjour, vous m'entendez ? Vous êtes professeur d'histoire intellectuelle de la Chine du XXe siècle à l'École des hautes études en sciences sociales et professeur honoraire à l'Université de Hong Kong. Votre dernier livre, je crois, s'intitule, il est publié en anglais, « The Rise of China's Grassroots Intellectuals » aux éditions à Columbia, c'est ça ?
C'est ça.
Alors, d'abord peut-être avant de parler du livre, quelques mots sur Fang Fang, qui n'est pas forcément très connu en France. Brigitte Duzan, vous voulez en parler ?
Oui, Fang Fang effectivement n'est pas très connue et pourtant elle a été publiée dès la fin des années 1980. On a traduit une de ses nouvelles qui est une nouvelle qui a marqué l'histoire de la littérature chinoise, étant donné qu'on était à la fin des années 1980 dans une période d'avant-garde en littérature et qu'elle a lancé un mouvement totalement différent et qui allait se poursuivre par la suite et qui est le néo-réalisme. Mmh. Et on voit qu'aujourd'hui, elle a continué dans cette voie, tous ses romans, et elle le dit dans son... Elle l'explique très très bien dans une page de son journal. Tous ses romans sont orientés vers... le peuple, le petit peuple dont elle se dit faire partie. Mmh. Et le journal est à replacer dans ce contexte de néo-réalisme et d'orientation vers l'étude des parties les plus défavorisées de la population.
D'accord. Et elle a publié en 2015 un roman qui s'appelait Funérailles molles, qui est, enfin, en tout cas, c'est le titre français quand le livre est sorti l'année dernière, d'ailleurs en 2019 aux éditions L'Asiatech, qui raconte le sort tragique d'une famille de propriétaires terriens pendant la révolution agraire des années 50. Les funérailles molles désignant les corps des ennemis de classe enterrés à même le sol, c'est ça, sans cercueil.
Ouais, c'est un roman absolument remarquable à de nombreux points de vue. Et il a été publié d'abord en 2015, il a eu un prix très important en Chine, donc il a été reconnu comme un très bon roman. Et ensuite, il a été attaqué par des néo-conservateurs dont elle parle, les gens qui l'attaquent aujourd'hui sont la suite de tout ça.
Oui, c'est pour ça que je mentionnais.
Mais le roman est d'autant plus important qu'il traite de la réforme agraire et que c'est un sujet totalement tabou en Chine. Et donc, quand je l'ai proposé à l'Asiatech, justement, après qu'elle a eu le prix prix. Je me suis dit, c'est un livre extraordinaire. Et l'Asiatèque aussitôt a foncé et c'est la traduction française est la seule traduction encore aujourd'hui. Mm-hmm. Parce que c'est pas facile à traduire, mm-hmm. il faut le dire.
Yin De Jong sur Fang Fang. Vous avez lu ces livres, je suppose?
Oui, j'ai lu avec plaisir, évidemment, son dernier roman qui a fait l'objet, effectivement, d'une attaque virulente et traitée de plantes vénéneuses dans les termes qui rappellent les heures les plus sombres de la révolution culturelle. Mmh. Je ne sais pas quand est-ce qu'on aborde son journal, mais sinon, effectivement... Ce journal-là marque encore un pas vers cette voie dissidente, pour reprendre les termes donc de l'émission.
Oui, parce que c'est ça, c'est-à-dire que Fang Fang n'est pas un écrivain dissident. C'est quelque chose d'important à signaler. Même si elle a été attaquée, c'est un écrivain officiel, c'est un écrivain complètement reconnu.
Il ne faut pas dire qu'elle est dissidente.
Voilà.
On ne peut pas dire qu'elle est dissidente, et je crois que c'est pas un service à lui rendre en plus. Il y a encore hier, j'avais fait le tour de tous les amis pour dire quelle est la position de Fang Fang aujourd'hui. Quelle est la... En fait, hier soir, très très tard à minuit, j'ai reçu un article qui est un indice de ce qu'elle est aujourd'hui. Elle est attaquée par les néoconservateurs, par les ultra-nationalistes, comme elle les appelle, mais elle est toujours en référence dans les manuels scolaires. Son livre, ce fameux premier roman qui a lancé le néo-réalisme, ça a été traduit en français, donc Une vue splendide, ça a été publié chez Piquet en 1900... le livre en Chine a été publié en 1987 et ensuite en traduction française chez Piquet. Ce livre est toujours dans les manuels scolaires, donc ça veut dire qu'elle n'est pas une dissidente. Et d'ailleurs, dans son journal, elle fait constamment retour sur sa position en disant « Je suis le gouvernement, je respecte les lois, je suis conforme. »
Oui, on va y venir, parce qu'elle a un positionnement extrêmement complexe. Il faut d'ailleurs décrypter quelquefois. Quand on n'est pas au fait de ce qui se passe en Chine, c'est pas toujours facile
de repérer son... Ça a évolué.
Et ça évolue en plus dans le temps, dans le livre. Alors, pour en venir au livre, c'est effectivement un blog qu'elle a tenu pour l'essentiel sur son compte Weibo, qui est un service de micro-blog, l'équivalent un peu de Twitter. Au départ, les publications sont limitées à 2000 caractères chinois, si j'ai bien compris. Elle écrivait un thread par jour, en fin de journée en général, dès le début de la quarantaine, le 25 janvier, et elle a tenu ce blog jusqu'au 8 avril, le jour du déconfinement. Ça a été publié sur WeChat. Quelques textes ont été censurés. C'est jamais clair. On ne sait jamais exactement quels textes vont être censurés, quels textes ne le seront pas. Et en plus, comme elle l'explique à un moment donné dans le livre, même les gens qui postent les blogs ne savent pas si leur texte est censuré ou non, parce qu'ils ont l'impression qu'il est publié, en fait. Donc c'est très subtil. On ne peut pas toujours le savoir.
Ouais. Est-ce que je peux faire une toute petite... Oui. Elle n'a pas publié jusqu'au 8 avril, justement.
Ah oui.
Elle a publié jusqu'au 65. Elle était tellement attaquée qu'elle a arrêté.
Elle a arrêté au
60e billet.
Oui, oui. Sébastien Weck, vous avez regardé le livre de Fang Fang?
Oui, oui, bien sûr.
D'abord, votre impression de lecture, d'abord.
Oui, alors j'avais suivi bien sûr déjà un petit peu le blog en temps réel, même si j'avais pas lu tous les posts, mais donc effectivement il y a un champ qui est assez complexe en Chine de la discussion publique, donc pour rappeler effectivement que Fang Fang, comme elle le dit souvent, c'est une fonctionnaire d'une certaine façon. Elle a été présidente de l'association des écrivains du Hubei, donc elle vit dans le maintenant retraité. Elle a obtenu un appartement donc dans le compound de l'association des écrivains, donc elle vit entourée de tous ses anciens collègues et donc elle se situe elle a quand même la possibilité, une certaine liberté de parole aussi du fait de son statut. donc voilà, elle commente, enfin disons que en lisant son blog, effectivement, qui a eu beaucoup de succès à l'époque, on avait des commentaires intéressants, mais rien qui soit vraiment très surprenant, en fait. Enfin, il faut pas non plus penser que sur les réseaux sociaux chinois on peut rien publier, enfin, sans du tout minimiser la censure. Disons que voilà, faire quelques commentaires sur l'actualité, la vie quotidienne, tout ça, ça pose pas beaucoup de problèmes. Alors là, évidemment, où ça devient problématique, c'est quand elle touche à des questions politiques, et en particulier à cette question à laquelle elle revient très souvent, qui est de savoir ce qui s'est passé en fait avant le 21 janvier, et pourquoi à la fois les médecins et les responsables politiques n'ont pas voulu reconnaître donc la transmission de l'homme à homme du virus et tout ce qui s'ensuit donc dans la gestion de l'épidémie par le gouvernement. Mais elle revient sans cesse sur le fait que elle est rassurée par tous les efforts que déploie le gouvernement central, elle est reconnaissante de la bonne gestion de l'épidémie par le gouvernement. Donc voilà, elle se positionne sur une ligne qui n'est pas totalement sans danger, mais qui n'est pas...
C'est-à-dire qu'il y a un jeu qui fait penser à ce qu'on a pu voir, par exemple, à l'époque de l'Union soviétique aussi, où elle s'en prend essentiellement aux fonctionnaires locaux. On a l'impression qu'elle attaque les fonctionnaires locaux pour éviter de s'en prendre au pouvoir central. Mais en même temps, les attaques et les questions qu'elle pose finissent forcément par... on va rentrer dans le détail tout à l'heure, mais finissent forcément par rejaillir quand même sur la gestion de la crise par le gouvernement central. Donc c'est assez compliqué comme stratégie. Valérie Niquet.
Oui, effectivement, c'est un positionnement qu'on retrouve dans beaucoup de régimes totalitaires ou très autoritaires, en URSS, pour ceux qui ont connu la période soviétique, ou même aujourd'hui d'ailleurs parfois, où on est toujours à la marge entre soit plongé dans la dissidence totale, mais être réduit au silence en fait, censuré, emprisonné. On se souvient du prix Nobel Liu Xiaobo, qui est mort en résidence surveillée, il publiait ses poèmes, il n'a pas pu quitter le territoire, donc c'est une position extrêmement dangereuse. L'exil aussi, beaucoup partent, et puis ceux qui restent et qui doivent donc composer s'ils veulent pouvoir être entendus. Et une manière de composer, c'est effectivement à la chinoise, et on remonte à la période quasiment impériale, l'empereur est innocent, son entourage est coupable, et encore plus les autorités locales. Et Pékin, évidemment, le régime actuel, qui fait partie de ces ultranationalistes particulièrement fermés, joue aussi de cette accusation d'autorité locale inefficace face à un pouvoir central qui, lui, a pris conscience de ce qu'il fallait faire et sort, en quelque sorte, en apparence au moins grandi par sa gestion de la crise. Oui. Et Fang Fang doit s'insérer, depuis qu'elle publie son blog, et depuis toujours d'ailleurs, comme tout écrivain en Chine, dans ces jeux complexes, sachant que, comme vous le disiez, dans les années 80, il y a eu une période beaucoup plus ouverte, y compris sur Internet, quand on n'avait pas encore les moyens de contrôler autant, et que donc aujourd'hui, on est au contraire dans une phase de très très grand repli.
Période à laquelle elle fait référence d'ailleurs. Et c'est compliqué parce que oui, les fonctionnaires servent de punching ball à tout le monde, c'est-à-dire que le gouvernement central peut se retourner contre eux quand il y a trop de critiques, les opposants éventuellement leur tapent dessus pour éviter de taper sur le pouvoir central. Et en même temps, la notion de pouvoir local, elle est particulière parce qu'on est quand même en Chine, on est à Wuhan, et comme le dit Fang Fang à un moment donné, le pouvoir régional, c'est pas exactement ce qu'on peut imaginer que si on va à Vesoul ici. On a par exemple, elle dit à un moment donné qu'il y a deux groupes de médias à Wuhan, dont Hubei Daily, qui contrôle à lui seul 7 journaux, 8 magazines, 12 sites web, 5 plateformes mobiles, une agence de publication, 56 sociétés, 17 bureaux répartis dans toute la province. Donc c'est des infrastructures gigantesques, même lorsqu'elles sont régionales.
Oui, gigantesques et contrôlées évidemment par le parti. Particulièrement depuis l'arrivée au pouvoir du président Xi Jinping, il a énormément insisté sur le contrôle idéologique, puisque sa grande angoisse évidemment, c'est cette perte de contrôle idéologique qui a abouti, selon les analyses qui sont faites en Chine, à l'effondrement de l'URSS, qui n'a pas su finalement continuer à se maintenir idéologiquement, et ça explique aussi pourquoi il y a cette volonté de reprise en main qui passe par les médias, des médias dont l'audience relativement limitée. C'est-à-dire que elles existent, on les lit. Bien sûr, elles peuvent avoir un caractère persuasif pour ceux qui veulent y croire, mais en général, on laisse couler le filet de la propagande qui passe par ces médias, plus ou moins violente. Et puis, on mène sa vie en essayant de le faire au mieux, en passant au travers des mailles du filet, ce qui ne veut pas dire que les Chinois soient dans leur ensemble fanatiquement favorables à la situation actuelle.
Oui, c'est un des enjeux du livre d'ailleurs, parce que le blog, c'est un des enjeux du blog de Fang Fang en tout cas, parce que très vite, à sa propre surprise apparemment, plusieurs dizaines de millions de lecteurs se sont mis à attendre son blog chaque jour. Donc le blog a atteint le blog s'est mis à atteindre une popularité complètement imprévue, et donc c'est devenu un enjeu politique national pour le coup. Alors on va rentrer dans le détail du livre lui-même dans une seconde.
France Culture, Signe des Temps, Marc Wetzmann.
De rock chinois, évidemment pas de la Chine continentale, hein, No Party for Guangdong, c'est le nom du groupe. One Will Close, l'intérêt pour nous, lecteurs occidentaux, quand on ouvre ce livre, il est de trois ordres, à mon avis. Il y a d'une part l'intérêt documentaire pur, qu'est-ce qui s'est passé à Wuhan pendant le confinement, ça on va en parler, c'est absolument incroyable par certains aspects. Et par d'autres, c'est une amplification de ce qu'on a connu en fait. L'autre aspect est littéraire, c'est-à-dire que un objet littéraire qui n'était pas destiné à devenir un livre, c'est pour ça que c'est non écrit d'une certaine manière, et en même temps qui pose des questions fondamentales sur la nature du langage quand l'information ne circule pas librement. Et enfin, ça c'est lié la question de la censure. Comment tout ça s'organise ? Alors d'abord, ce qu'elle raconte, on retrouve certains aspects, je vais dire deux mots du livre, on retrouve certains aspects de ce qu'on a connu, nous, comme la question des masques, qui s'est posée à Wuhan aussi au début, comment maîtriser l'épidémie, hospitalisation des malades, isolement de ceux qui doivent l'être, l'attente du pic aussi. On a même une espèce de docteur Raoult chinois, avec l'existence d'un docteur Li Yue, je sais pas comment ça se prononce, Li Yue Yuwa, qui parviendrait à soigner le virus par des injections au niveau des points d'acupuncture et qui a créé une polémique sur le net, et dont Fang Fang dit ça l'a vraiment prodigieux, pourquoi ne pas lui donner une chance. Mais tout ça s'inscrit dans un climat totalement incroyable, hein. Fin janvier, il y a une brutale explosion du nombre de personnes contaminées. On compte 1500 à 1600 personnes par jour dans les hôpitaux. Fang Fang écrit les malades se mettent à arpenter la ville en tous sens, dans le vent et la pluie, à la recherche de médicaments et d'un lieu où se faire hospitaliser, parce que tous les transports publics sont à l'arrêt, mais les gens n'ont pas de voiture. Donc, ils sont réduits à se rendre d'un hôpital à l'autre à pied. Il y a des vidéos qui circulent d'une petite fille qui pleure à côté d'un fourgon funéraire. La mère est morte, le corps est emporté, la fille ne peut pas assister à l'enterrement. Fang Fang écrit « En Chine, où la tradition veut que l'on fasse peu de cas de la vie, mais que l'on respecte la mort, c'est probablement la plus grande douleur. Des rumeurs sur le Remdesivir, le médicament testé par Gilead, circulent. On appelle le Remdesivir l'espoir du peuple. » La météo s'en mêle, la neige, le vent, le froid, mi-février, les fortes rafales de vent apparemment font que certaines chambres perdent les toits s'envolent, les toits des hôpitaux et des chambres d'hôpital sont arrachés par le vent. Après le confinement, les haut-parleurs en bas des immeubles crient « ne sortez pas, ne sortez pas, ne sortez pas », enfin c'est ce qu'elle décrit, hein. Quand le printemps arrive, les commerçants qui ont du marché, qui ont tiré le rideau de fer au début du confinement en laissant la marchandise sur place, n'ont pas pu la récupérer, si bien que l'eau et l'électricité qui ont été coupées depuis font que les poissons et les fruits de mer commencent à empester sur des kilomètres. Enfin, le tableau est complètement improbable. Ça prend des proportions dantesques. Hein. Il y a une page entière sur la notion de catastrophe. Qu'est-ce que c'est qu'une catastrophe à Wuhan, qui est une page fantastique. Et puis je sais pas si je vais la retrouver. Oui, voilà, je vais en lire deux trois lignes. Comment ?
Je crois que c'est page 300.
Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'une catastrophe ? Ce n'est pas d'être obligé de porter un masque ou de rester chez soi. La catastrophe, ce sont les registres de décès qui se remplissent en quelques jours quand un seul suffisait pour plusieurs mois. La catastrophe, ce sont ces cadavres fouillés dans des sacs mortuaires qui partent pour le crématorium entassés dans des fourgons quand d'ordinaire un mort est mis dans un cercueil et conduit seul par un véhicule. Pensez-vous qu'en des temps pareils, les familles puissent accompagner leurs morts dans les funérariums? Pensez-vous que leurs affaires personnelles leur soient remises? Croyez-vous que tous ces malades meurent dans la dignité? Non. Ils meurent, ils sont traînés au crématorium et brûlés dans la foulée. Ce n'est pas que les gens ne remplissent pas leurs devoirs depuis le début de l'épidémie, c'est une catastrophe. Chacun fait de son mieux, mais tout le monde est débordé. Il est impossible de répondre aux exigences complètement irréalistes des nationalistes qui, en fait, expliquent que tout va bien et que tout va aller de mieux en mieux. Dans ces temps de catastrophe, écrit Fang Fang, il n'y a plus ni calme ni tranquillité, il n'y a que la mort à regret des malades, il n'y a que le chagrin viscéral des familles meurtries par le deuil et les vivants, être vers la mort, c'est comme ça qu'elle appelle les vivants, qui n'ont d'autre choix que d'aller de l'avant. Donc c'est le tableau qu'elle fait et qui évidemment génère des réactions très hostiles à Brigitte Duzan.
Oui, c'est une des pages, vraiment c'est, pour moi c'est un sommet du journal, parce qu'elle a... Elle a beaucoup de références littéraires, de références à des poèmes, etc., qui sont d'ailleurs très bien notés dans la traduction française. Mais cette page-là est absolument formidable. Et c'est une des choses d'ailleurs qui ont été censurées.
Oui.
Alors, si je peux revenir un tout petit peu sur cette histoire de censure.
Oui, bien sûr.
Il est certain que, à partir du moment où elle avait des millions de lecteurs derrière elle et que c'était avéré, c'était une force, c'était vraiment une force. Je crois que ce qui a sauvé son blog, c'est parce qu'elle avait autant de gens qui la lisaient et que les gens étaient passionnés. Et donc, se pose la question de savoir pourquoi ses billets journaliers ont été autorisés avec des plus et des moins. Et elle le dit de manière très ironique au début dans ses billets, parce que chacun de ses billets commence par une description du temps. Et ça, c'est la tradition en Chine. On apprend ça à l'école maternelle, presque. Comment on écrit un journal? On commence par dire la date et le temps qu'il fait. Donc elle le fait, mais elle le fait de manière très, 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 très subtile. Et donc l'un de ses billets, elle dit, hier il pleuvait, aujourd'hui il fait beau, c'est comme la censure pour mon billet, pour mes billets, un jour ils sont censurés et le lendemain ils ne sont pas. Voilà. C'était ça. C'est vrai qu'on ne sait pas pourquoi. Tout fonctionne en fait par des mots-clés. Donc il suffit que vous mettiez un mot-clé qui ne passe pas et paf, tout est censuré. Mais se pose donc quand même la question, pourquoi est-ce que ça n'a pas été censuré ?
Parce que
tout le reste a été censuré, y compris les poèmes d'une infirmière qui n'était pourtant pas... ils ont été censurés. Et il y a un analyste chinois qui a donné une réponse qui paraît assez satisfaisante. Il a dit, ça c'est l'art de la censure. Il ne pouvait pas laisser le paysage totalement blanc.
Ah oui.
Donc, c'était assez inoffensif quand même, étant donné qu'ils arrivaient à maîtriser, à contrôler ce qui n'était pas conforme. Donc ils arrivaient à le contrôler. Donc autant l'autoriser. Et comme ça, la population était contente. Mmh, mmh. Ce qui est important, c'est que la population soit contente et qu'elle soit rassurée.
Ouais, ouais. Yindejiang. Si vous êtes là.
Oui, effectivement, il y a le contenu et puis oui, vous m'entendez?
Oui, très bien.
Oui, alors il y a le contenu et puis il y a le langage comme vous l'avez souligné. Et alors ce langage qui caractérise effectivement un mode de saisie particulier des faits. Il y a effectivement le souci du factuel, mais il y a également tout un style que j'associerais très volontiers avec le genre élégiaque propre, enfin si familier donc de la population locale, lorsque l'auteur convoque toute une série de poètes extrêmement connus, évidemment par l'ensemble de la population, mais particulièrement par la population locale, pour cet ancrage et ce partage culturel. Eh bien, à propos donc de ce mode de saisie particulier, je dirais que l'un des mérites, pour revenir donc sur la problématique de la censure et de la dissidence, terme utilisé de préférence donc à l'extérieur et qui peut paraître effectivement impropre donc dans le contexte chinois, mais il y a tout au moins une voie polémique, une dimension polémique donc qui caractérise ce journal, qui porte une double signature, une signature à la fois individuelle, mais aussi collective, comme vous l'avez beaucoup souligné, parce que, en fait, du point de vue du contenu même, c'est un mélange de l'expérience directe en termes de vécu et d'observation, mais également des informations relayées à partir donc des réseaux sociaux. D'ailleurs, c'est l'un des reproches qu'on lui adresse en parlant donc de la vérité, en lui demandant de montrer donc des preuves et des photos notamment. Donc, et du point de vue donc de la modalité de la production de ce discours, eh bien, c'est un discours conversationnel, dialogique, même participatif. Eh bien, le Weibo donc c'est qu'elle utilise hors du livre, c'est une forme partageable. Donc la naissance même de ce journal est due à une sorte de maïeutique paradoxale, impulsée à la fois par des forces antagonistes, à la fois alliées et opposées, avec le concours et l'exhortation donc des amis sympathisants convaincus et des adversaires, essentiellement des gauchistes, pour reprendre le thème dans son sens littéral, que l'on traduit par ultranationaliste, ce sont, si vous voulez, soit néo-conservateurs ou néo-maoïstes, donc suivant donc les optiques différentes. Mais du coup, la signature de Fangfang porte ce double saut du collectif et de l'individuel, du commun et du particulier. Le mérite, pour moi, c'est qu'elle a réussi à créer ainsi un espace public ou un forum ou un lieu de débat, si on le veut, et qui se réduit ailleurs comme une peau de chagrin. Et dans ce sens-là, elle peut aller très très loin. Évidemment, elle prend des précautions en utilisant toute une série de rhétoriques tactiques, mais parfois, par exemple, lorsqu'elle interroge les responsables locaux, elle peut utiliser un exemple traditionnel en parlant de décrets impériaux auto-culpabilisants. Alors là, donc l'inconscient frise la lèse-majesté.
Et une des choses qui lui permet de faire ça, une des choses qui permet à ce texte d'être effectivement d'être plusieurs voix en une, c'est son ancrage dans le local, le fait qu'elle est à Wuhan, qui est quand même quelque chose de très important dans le livre. C'est un écrivain du lieu. Elle insiste beaucoup là-dessus, parce qu'un des reproches qui lui est fait, on lui dit par exemple, au lieu de se cacher chez vous et de répéter ce que vous entendez à droite à gauche, vous feriez mieux d'aller sur le terrain. Et elle répond, que voulez-vous que je réponde à cela ? Pour moi, la question ne se pose pas, je vis sur le terrain. Les écrivains qui ne sont pas sur place ne peuvent pas comprendre la situation. Cet ancrage dans le lieu, qui est aussi un ancrage dans le détail, c'est ce qui fait la matière du livre, vraiment. Parce que les témoignages qu'elle recueille ne sont pas seulement le sien, c'est les réseaux sociaux, comme ça vient d'être dit, mais c'est aussi les voisins, les amis, la famille, etc. Valérie Niquet.
Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que Wuhan est la ville martyre, en fait, de ce Covid-19, dans la mesure où, en plus, c'est là qu'il y a eu le plus de le nombre de morts officiellement déclarés est évidemment très, très, très largement à Wuhan, et que c'est une ville qui a énormément souffert et qui a aussi servi, en quelque sorte, de prototype qu'on a retrouvé chez nous, bien entendu, à une échelle bien moindre, mais cette idée qu'on a immédiatement adoptée, qui était le modèle chinois d'enfermement radical qui effectivement a arrêté l'épidémie par manque de contact, par absence de contact. Ce qui est intéressant, c'est que Wuhan reste un modèle et ce sera j'aimerais beaucoup voir ce que Fang Fang éventuellement écrira là-dessus, mais vous vous souvenez qu'il y a quelques jours les autorités chinoises ont montré cette soi-disant rave party avec des jeunes chinois dans une piscine, plusieurs milliers qui dansaient sans masque, et donc on passe d'un extrême à l'autre. Ce que nous, on dénonce ici, et ce qui est sans doute encore dangereux en Chine, bien qu'on ne le dise pas, tout d'un coup, Wuhan devient le modèle de la folie et de l'expression spontanée, sans doute très contrôlée, d'une réussite, mais en même temps, d'un mode de vie qui n'est habituellement pas du tout encouragé par le parti communiste, dans ces formes-là, en tout cas. Donc, c'est vraiment une sorte de symbolisation, Wuhan, de ce que la Chine veut montrer au monde, à la fois avec le témoignage de Fang Fang qui fait partie aussi du discours, et puis de cette réussite, de cette sortie de la crise opposée aux échecs des démocraties occidentales.
Sculptures of them, then drags them to the river's bank and the court. The soggy paper bodies wash ashore in the dark. And the priest stiffened head, now demanding from Miguel of his well-dressed as man for the pleasure of that priest. Here I am, not quite dying. My body left to rot in a hollow tree. His branches throwing shadows on the gallows for me.
Alors, Wuhanville Close par Fang Fang, livre collectif et livre singulier à tous les sens du terme. Sébastien Weng, je voulais revenir une seconde sur ce paradoxe de l'ancrage local. Finalement, Fang Fang retrouve une tradition vraiment littéraire qui est la littérature, c'est l'ancrage, c'est une forme de régionalisme presque. Et en même temps, à travers ça et à travers les réseaux sociaux, elle atteint à une forme d'universalisme et même de globalisme, puisque le bouquin écrit entre janvier et avril est traduit aujourd'hui et publié partout.
Oui, alors le local, c'est vrai qu'il est là, mais je ne sais pas exactement quel rôle il joue. Bien sûr, elle parle du fait que Wuhan vit cette expérience de façon particulière. Moi, ce qui me paraît peut-être le plus significatif, c'est comment Fang Fang s'inscrit dans, effectivement, on peut rattacher ça à cette question des échelles, comment elle s'inscrit dans une sorte de sphère publique, comme l'a dit Zhang Yinde, qui est à différentes échelles. Donc elle est effectivement, donc elle poste sur Weibo, alors ça passe ou ça passe pas. Weibo, donc je rappelle que c'est quand même donc c'est des opérateurs privés, hein, donc oui. c'est pas forcément tout de suite le ministère de la sécurité publique, donc c'est un jeu en fait où chacun essaye de deviner ce qui peut être censuré ou pas et de censurer préemptivement. Alors ces posts sont aussi repris par Caixin. Alors Caixin, c'est un des grands médias qui a survécu, enfin c'est en fait le seul média vraiment qui a survécu, alors on va pas dire indépendant parce que ça n'existe pas en Chine, puisque chaque média doit être rattaché en fait à une institution étatique, mais Caixin a survécu de l'époque il y a une dizaine ou une quinzaine d'années où un certain nombre de publications de la presse prenaient plus de liberté avec les lignes rouges de la censure. Et Caixin, c'est un média qui est dirigé par Hu Shuli, qui est une journaliste d'investigation très célèbre, donc qui est maintenant établie dans le Zhejiang, et qui a joué un grand rôle dans cette crise en publiant un certain nombre de textes. Alors par exemple, interview avec la médecin urgentiste Haifeng, qui a critiqué la gestion de l'épidémie à Wuhan, et d'autres textes qui ont ensuite été censurés, mais donc là qui a vraiment donné une répercussion nationale. Et alors au-delà de même des frontières, Fangfang fait passer ses textes via un compte WeChat public, mais qui est tenu par une amie aux États-Unis. Alors bien sûr, soumis encore à la juridiction de WeChat, donc on sait au passage que WeChat pratique la censure, y compris dans des pays où la censure est interdite, hein, donc aujourd'hui moi je poste sur WeChat à Paris, ce poste peut être censuré, donc ça parenthèse, une question à laquelle devrait peut-être réfléchir, dans quelles conditions on autorise l'opération de ce type d'entreprise, mais en tout cas donc via cette amie écrivain aux États-Unis qui relaye ses textes, elle a effectivement ce rayonnement mondial, donc on voit bien comment ça fonctionne. Elle est effectivement sur le terrain, mais je dirais que peut-être plus encore qu'elle, il y a quelqu'un qui était sur le terrain, qui est Chen Qiushe, qu'elle ne mentionne jamais. Alors elle parle pas mal de Li Wenliang. Je pense que ça c'est les moments les
oui,
plus.
Oui, j'allais y venir. J'allais venir à Li Wenliang.
Ouais, bon, on y reviendra. Donc c'est ce médecin lanceur d'alerte ophtalmologiste donc qui est mort. Ça c'est vraiment, et là aussi elle est très représentative de l'opinion publique. C'est vraiment cette personne-là qui cristallise les mécontentements, disons, politiques de la société chinoise vis-à-vis de la gestion du virus, la partie médicale, les gens ont peu de critiques, globalement parlant.
Oui, alors, c'est ce que le livre se durcit à mesure que le temps passe, hein, les blogs se durcissent. Effectivement, Li Wenliang, qui est cité dès le départ, donc c'est l'ophtalmologue de 34 ans qu'on a vu, hein, sur les télévisions françaises aussi, qui a lancé la première alerte fin décembre, qui a été convoqué par la police à cause de ça et sanctionné pour propagation de fausses valeurs et qui est mort finalement du Covid-19. Donc,
ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a son mémorial, en fait, sa page Weibo, qui reste active aujourd'hui et qui est devenue une sorte de mémorial. Forum, voilà, où les gens laissent des messages, des critiques, leurs sentiments, etc., et qui est une sorte que donc là encore, que le pouvoir n'a pas cherché, enfin, n'a pas voulu entièrement interdire. Donc ça, c'est la grande force du régime chinois, c'est qu'il y a toujours une gestion très adaptative de la censure.
On laisse les gens comprendre jusqu'où ils peuvent aller trop loin, quoi.
Il y a une nécessité en fait de comprendre l'état de l'opinion publique et qui peut pas simplement se faire par la surveillance. Elle doit aussi se faire en laissant quelques espaces. Et donc ça, cet espace-là, il est permis. Alors, l'autre personne que je voulais mentionner, Chen Qiushe, donc qui était un journaliste d'investigation indépendant, qui est allé, alors là, vraiment beaucoup plus sur le terrain que Fangfang. Il est allé dans les hôpitaux avec son smartphone, filmer les personnes dans les files d'attente, etc. Alors lui, elle ne l'évoque pas, donc ça, c'est hors champ. Et lui, il a été enlevé, on va dire, enfin il a disparu en tout cas fin janvier, sans laisser de traces, et on n'a plus aucune nouvelle de lui depuis fin janvier. Donc ça, c'est quelqu'un qui diffusait sur les médias sociaux ses reportages vraiment au plus proche de ce qui se passait. Donc on voit cette espèce d'échelle graduée de la publicité, c'est ça que je dirais.
Alors, je voudrais finir cette émission ça passe très vite, hein. Je voudrais finir cette émission sur ce que dit Fangfang du langage. Parce qu'elle dit dans le futur, quand les gens liront ce commentaire, ils comprendront qu'en 2020 une épidémie s'est propagée à Wuhan et qu'un autre virus a contaminé le langage et s'est propagé via les commentaires laissés sur mon compte Weibo, c'est-à-dire via ses critiques, qui a mis en lumière tout le déshonneur de notre époque. Et donc elle répond à ses critiques, mais plus profondément que ça, elle met en parallèle le virus et une certaine viralité du langage contaminé en quelque sorte par ce jeu entre censure et une certaine forme de liberté. Valérie Niquet, là-dessus.
En Chine, il y a de toute manière un jeu ancien, en tout cas depuis les années 70, sur les mots, les jeux de mots pour arriver à dire des choses en jouant sur les caractères aussi, en les écrivant d'une manière différente, en inventant des caractères aussi, qui permettent de dire des choses pour échapper à la censure, puisque c'est une course permanente. Il y a des moteurs de recherche qui éliminent certains mots, donc on essaye de dire les choses. Donc ça, c'est un point. Et puis, après, il y a le caractère extrêmement violent des attaques, et qui effectivement rappelle l'époque de la révolution. Ça montre que ça n'a pas vraiment évolué de la révolution culturelle, avec des dénonciations très très violentes de tous les opposants, qu'ils soient en France ou à l'étranger. Moi, je me souviens que sur un commentaire d'un article écrit dans le Global Times à mon sujet, je suis traitée de vieille sorcière française. Faites la terre, cette vieille sorcière française en chinois. Donc, ce qui est plutôt amusant comme nom de plume d'ailleurs, mais on voit bien que la violence des attaques est une tradition à laquelle la Chine n'a pas échappé et est toujours plongée dans ces invectives extrêmement violentes qui se traduisent d'ailleurs concrètement, comme Sébastien vient de l'évoquer, par des enlèvements, des emprisonnements et une très très grande incertitude sur le sort de ceux qui véritablement s'opposent.
Ai Fen, d'ailleurs, la directrice des urgences de l'hôpital central, qui est en fait la première à avoir mentionné le virus publiquement avant même l'ophtalmologue dont on parlait tout à l'heure, a disparu pendant une semaine avant de revenir. Mais sur ce jeu constant entre, il y a un des textes que le pouvoir cherche à censurer dans le livre, j'oublie lequel. Fang Fang raconte comment les internautes se repassent le texte en fait pour échapper à la censure, ils changent le premier mot où ils ajoutent un croquis, un truc, de la manière que les modérateurs, en fait les censeurs, n'arrivent pas à repérer le texte tout de suite. Donc il y a un jeu de cache-cache comme ça qui s'instaure sur Internet. Mais en fait, ce jeu rend les choses... le problème, c'est que ce jeu rend les choses acceptables. Enfin, ça devient effectivement un jeu entre la population et le pouvoir à un moment donné, non, Brigitte Duzan?
Ah oui. Et ça, c'est presque un grand plaisir, ce jeu. Parce que, en particulier pour Ai Fen, alors, il y a différentes manières de procéder. Il y a maintenant des techniques. Alors, ça s'est affiné. Au début, on mettait des textes entiers en pinyin, c'est-à-dire la transcription orale des caractères, et comme ça, les gens qui font la censure, ils trouvaient pas les caractères, et donc la censure ne fonctionnait pas. Donc là, ils ont trouvé. Donc maintenant, ils ont adapté leur truc au pinyin. Donc le pinyin, ça marche plus, mais on a d'autres choses. Par exemple, on a fait un texte entier qui était le texte Ai Fen, donc le texte qui a circulé sur Internet, qui était sa déclaration initiale déclarant qu'il y avait un virus et qui avait été censuré. C'est passé, c'était passé en emoji. Voilà. Et ça ne pouvait pas être censuré.
D'un mot, Valérie Niquet, vous pensez que ce type de jeu, où finalement on accepte le système tout en le critiquant, a des risques de peut se propager dans d'autres pays?
Alors, se propager ailleurs, j'en suis pas certaine. En tout cas, il sera condamné. Et je ne suis pas certaine non plus qu'on l'accepte, ce soit un jeu si innocent que ça. Même en Chine.
C'était Signe des temps, une émission de Marc Wetzmann, assistée de Aurélie Masseret, avec à la technique Clément Daté et à la réalisation Perret Degras.